Le Seigneur veut continuer à qu'on soit édifié par sa parole, parce que je crois qu'il y a juste ça qui est important. C'est pas les autres phrases que je vais dire autour qui est important, c'est ses paroles. Quand je mentionne des versets, quand je mentionne des versets, c'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus tranchant. C'est pas moi, c'est pas ce que je vais dire qui est tranchant. C'est qu'est-ce que la parole de Dieu est écrite noir sur blanc. Puis ça, là, c'est des armes. La parole de Dieu est une arme, autant pour attaquer, comme est un épée, autant comme un bouclier pour nous protéger. C'est les armes de la justice, des armes défensives et offensives. Puis il faut apprendre à manier notre épée. Puis il faut être des gens qui connaissent la parole de Dieu. C'est pas notre parole, mais la parole de Dieu. Parce que Dieu, il veut se servir de ce qu'il nous révèle après ça pour qu'on marche dans notre vie, puis qu'on sache dire non à des choses, puis dire oui aux bonnes choses. Parce qu'on est en guerre, puis on est face à des choix quotidiennement. Puis des fois, nos choix qu'on fait peuvent nous aider, des fois, les choix qu'on fait peuvent nous caler. On a résisté contre des choses, puis on a avancé dans ce qui appartient à Dieu. La suite du message, c'est en cours sur discerner nos ennemis. C'est le cinquième message dans cela. Dieu veut qu'on discerne nos ennemis. Il veut qu'on réalise qu'on est en guerre, puis qu'on est préparé pour la guerre. Tout l'enseignement de la parole de Dieu, c'est pour se lever une armée. Le Seigneur, c'est l'Éternel des armées. Il y a des armées dans le ciel, mais il y en a sur la terre. Puis nous sommes son peuple, son armée, puis on n'a pas à combattre contre les humains comme pogner notre voisin puis frapper dessus. On n'a pas à combattre contre la chair et le sang à coups de Bible. On a à combattre contre les esprits méchants dans ces lieux célestes. Puis les démons, le diable, c'est tout ce qui est de la hiérarchie diabolique, là, c'est là-dessus qu'on a à combattre. Puis il y a une seule puissance qui peut renverser la puissance des ténèbres, c'est la puissance de Dieu. Puis la puissance de Dieu est dans son esprit, dans ses armes. Puis dans ses armes, c'est la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit, qui est notre moyen d'attaquer et se défendre. C'est pour ça qu'il faut être habile. Il faut la connaître, notre Bible. Parce que beaucoup de personnes, ils ont accepté Jésus, puis ils pensent que c'est juste ça, la vie chrétienne, puis ils lisent pas leur Bible, puis ils vont pas dans l'église pour écouter les enseignements. Fait qu'ils sont pas affermis dans la parole. Puis dès qu'elle va venir un coup de vent, ils vont branler sur un bord. Un autre coup de vent, c'est une autre idée, ils vont branler sur l'autre. Ça fait des gens qui sont flottants, emportés à tout vent de doctrine. Dieu veut pas ça pour son peuple. Il veut qu'on soit des hommes à la stature parfaite de Christ. Des hommes et des femmes de Dieu. Solides. Puis qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, puis on a une colonne vertébrale pour rester debout dans notre foi et de persévérer dans la foi jusqu'à la fin. Les paroles qu'on va voir, les versets sont donnés pour exercer notre discernement. Quand on vient à Jésus, là, on est rempli des pensées du monde. 100% rempli des pensées du monde. Là, on entend des idées que Jésus peut nous pardonner, Jésus peut nous sauver, il nous donner la vie éternelle, ça c'est parfait. On prend ces nouvelles idées-là, on les accepte, ces nouvelles idées-là. Puis là, à cause qu'on le confesse, pour qu'on se met à y croire, le Saint-Esprit vient dans notre vie, il nous remplit, il nous équipe, puis on sent qu'il s'est passé de quoi, on est né de nouveau, il y a une nouvelle vie qui commence. Mais là, le Seigneur veut faire le ménage de tout ce qu'on a appris avant. Tout ce qu'on a appris qui n'était pas de sa volonté. Tout ce qu'on a appris qui n'était pas de sa parole. Fait que là, il commence à nous révéler ses nouvelles idées. Puis en lisant la Bible, en scrutant les versets de la parole, là, on est en train d'aiguiser notre discernement. Plus qu'on va connaître la Bible, puis plus qu'on commence à discerner, « Ah, c'est ça que Dieu dit. » Ah, oh, c'est ça que Dieu pense. Ah, oh, c'est ça que Dieu veut. Plus qu'on connaît notre Bible, plus qu'on discerne sa volonté. Puis c'est ça qu'il faut arriver. Parce que voyez-vous, Dieu y équipe certaines personnes avec le don de discernement des esprits. Ça, c'est une bénédiction quand quelqu'un a ce don-là. C'est une révélation que le Saint-Esprit donne. Là, il discerne les esprits. Ah, ce gars-là, il parle pas par le Saint-Esprit. Il parle par sa chair ou par un esprit de ce monde ou peu importe. C'est le fun, le don, mais je sais que c'est pas tout le monde qui possède tous les dons. Mais une autre manière de discerner la volonté de Dieu est d'avoir un discernement aiguisé avec sa parole. Puis ça, tous les chrétiens peuvent l'avoir, ce discernement-là. C'est quelque chose qu'on doit être équipé. Faut la connaître, la Bible. Faut la connaître. Faut la lire. Faut l'étudier. Faut la méditer. Faut y réfléchir pour savoir c'est quoi que Dieu dit. C'est quoi que qui est important de connaître. Puis là, après ça, quand le monde nous dit quelque chose, non, ça, c'est pas de Dieu. Ah, ça, oui, c'est de Dieu. Puis là, on discerne. Puis Dieu veut que ses enfants soient capables de discerner. Paul, Pierre, dans 2 Pierre 1,13, vous n'êtes pas obligé d'aller toutes les ouvrir, je vais vous les lire, mais si vous voulez les écrire pour les relire chez vous, c'est parfait. Mais vu qu'il y a plusieurs versets, ça va être long si vous y allez à toutes. 2 Pierre 1,13 nous dit, « Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. » L'apôtre Pierre, dit dans ce verset-là, tant que je vais être vivant, c'est Pierre qui est en train de parler, je vais vous tenir en éveil par des avertissements. Vous voulez réveiller quelqu'un, là, on veut faire des campagnes de réveil, mais c'est quoi, en fin de compte, c'est faire un réveil, réveiller le monde, tenir le monde en éveil. Qu'est-ce que le monde a besoin de comprendre pour être en éveil? Mais c'est d'écouter les avertissements. La Bible est remplie d'avertissements, plein de paroles pour nous dire « Hey, fais attention à ça. Hey, touche pas à ça. Hey, fais ça. » Là, tu es comme sur un réveil, tu es en éveil. Puis tous les avertissements sont déjà écrits. On n'a pas besoin d'inventer rien d'autre. Tout est déjà là dans la Bible pour nous réveiller, puis nous tenir en éveil. Puis c'est ça qu'on va voir sur un sujet aujourd'hui. Sur le quatrième ennemi que les chrétiens ont à faire face, parce que les 3 premiers, je vous ai parlé que le monde était l'ennemi du chrétien, notre propre chair est l'ennemi du chrétien, puis il y a les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes, c'est l'ennemi du chrétien. Là, je vous en parle d'un quatrième qui est le mélange des trois. Puis il y en a de cela, là, devant nos yeux, là, à tour de bras, il y en a plein partout de ce genre de personnage-là qui est notre ennemi, que la Bible dit que c'est notre ennemi, puis qui sont là, animés du monde, animés par des pensées charnelles, puis animés par des doctrines de démons puis des esprits séducteurs. Cet ennemi-là, c'est les faux prophètes. Dans 1 Jean 4,5, en parlant des faux prophètes, Jean nous dit, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. On voit que les faux prophètes font partie de ce monde, font partie de l'ennemi du chrétien, le monde, puis ils sont écoutés par le monde, ils proviennent du monde, sont inspirés par le monde, sont inspirés aussi par leur pensée charnelle, leur corps. Colossiens 2,18, là, ça nous dit, c'est Paul qui parle, « Qu'aucun homme sur apparence d'humilité ou un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. » Voyez-vous, quand je disais que le corps est à l'ennemi du chrétien, un des ennemis du chrétien, nos pensées charnelles vont à contraire à la parole de Dieu. Fait que quand un faux prophète écoute ses pensées charnelles, il est animé par sa chair, animé par la pensée du monde, puis dans l'autre verset qui nous parle dans 1 Timothée 4.1, qui sont animés par l'esprit, un esprit séducteur des doctrines de démons, qu'on voit ça dans 1 Timothée 4. Mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Puis des doctrines de démons. Les faux prophètes, les faux docteurs, les faux enseignants, les faux frères, tout ce qui est faux sont animés du monde, de leur chair et des démons. Contrairement à un enfant de Dieu, qui a renoncé en acceptant de mourir à ses péchés, il a accepté Jésus comme son sauveur. La Bible dit qu'on est mort physiquement, spirituellement, on est mort, on est ressuscité en nouveauté de vie, on est rendu une nouvelle créature. Là, tu es inspiré par le Saint-Esprit, tu marches dans une nouvelle révélation. Là, tu marches, puis tu es à l'écoute de la pensée de Dieu. Puis là, Dieu te révèle ses idées, sa pensée, ses inspirations, puis il utilise la Bible pour être ton guide, ta lumière, pour être ce qui te nourrit, mais pour être aussi ce qui va t'éclairer puis t'aider à comprendre sa volonté. Un disciple de Jésus-Christ, un vrai prophète de Dieu, un vrai enseignant de la parole de Dieu, va toujours avoir des enseignements basés sur la parole de Dieu, puis il n'ira jamais en dehors de cela. Contrairement aux faux prophètes, qui s'inspire de tout ce qu'il y a autour, sauf la Bible. Mais on va voir dans la suite de l'étude qu'il y a de ces faux prophètes-là qui utilisent toutes sortes de ruses pour essayer de tromper les chrétiens, mélanger le monde. Puis, en fin de compte, ils sont comme Jésus a dit, des aveugles qui conduisent des aveugles. Paul nous avertit que dans Actes 20-29, allez lire ce passage-là, c'est un très, très bon verset. Actes 20-29. Puis ça, quand que je disais tantôt, Pierre veut nous tenir en éveil par des avertissements. Il nous avertit, la Bible est pleine d'avertissements. Puis ça, ça n'est un avertissement fait par l'apôtre Paul. Il est en train de parler à des pasteurs, des diacres, des anciens. Il est en train de parler à du monde qui est en charge dans l'œuvre de Dieu. Là, il dit, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. » Dans ce passage-là, l'apôtre Paul est en train de dire un avertissement. Puis vous allez voir que Jésus va en dire, Pierre va en dire, Jean va en dire, puis il y a plein de passages qui en disent à propos des faux prophètes, à propos de certaines personnes non animées de l'esprit, non basés sur la parole de Dieu, mais qui s'introduisent dans les églises, puis qui trompent. Ils veulent, c'est des loups cruels qui n'ont pas l'intention d'épargner personne, puis ils veulent infiltrer leurs fausses doctrines, leurs fausses pensées, leurs fausses révélations qui viennent pas de Dieu, puis essayer de tromper les chrétiens, mélanger les chrétiens, semer le doute des chrétiens, puis en fin de compte, entraîner les chrétiens à s'en aller pour les suivre eux, et non pas suivre Jésus. Ah, est-ce que j'en ai connu? Oui, j'en ai connu. Puis ça nous dit que les enseignements là qui vont nous prêcher, ces faux prophètes-là, c'est des choses pernicieuses. Le mot « pernicieux » en grec qui est écrit là, c'est des choses déformées, détournées. C'est des choses tordues, des choses modifiées. C'est pas les vraies affaires. Quand que tu peux utiliser des versets de la Bible, là, puis tordre le sens du verset pour y faire dire ce que le verset dit pas. C'est des mensonges. C'est en réalité, c'est de tordre l'essence des Écritures, puis de faire dire ce que ça dit pas. C'est pour ça que quand quelqu'un prêche, il faut qu'il soit basé avec des versets, puis que là, il enseigne la parole de Dieu avec des versets, puis que c'est les versets qui sont vrais. C'est pas tout ce qui est dit qui est vrai. C'est les versets. Puis il faut que, comme les gens de Béry, que tous les chrétiens examinent les Écritures pour savoir si ce qu'ils entendent est vrai. Parce qu'il y a tellement de mentries qui se véhiculent, même dans l'Église de Jésus-Christ, ça dit, il s'introduira parmi vous. Dans l'Église de Jésus-Christ, ça a de l'air chrétien, mais en réalité, c'est des mentries. C'est des loups, c'est des gens, c'est ça que ça dit dans le texte, des loups cruels, qui n'ont pas l'intention d'épargner le troupeau. Ils veulent ravager, ils veulent détruire. C'est dur à comprendre qu'il y a du monde méchant qui font exprès de s'infiltrer dans les églises chrétiennes évangéliques, puis essayer de prêcher des menteries que la Bible n'a pas dit. Puis là, le monde croit à ça, puis après ça, ça arrive pas, les choses sont pas accomplies, ça crée des déceptions, le monde tombe sur un down spirituellement, puis des fois, il y en a même qui vont abandonner le Seigneur parce qu'ils voient que ça arrive pas comme ça l'a été dit. Bien, c'est important d'être au courant, être affilé, d'avoir le discernement. Non, ça, cette idée-là, Dieu n'a pas dit ça, Dieu dit ça. On ajuste notre idée face à ce que Dieu dit dans sa parole, puis là, on ne se fait pas de déception. On continue. Ces gens-là, ils déforment, puis ils détournent. Puis dans les autres sens que ce mot-là il peut être utilisé, ils s'opposent, ils complotent contre les plans de Dieu. Puis même contre le plan du salut. C'est ce que ça dit dans le dictionnaire biblique. Ces gens-là enseignent des choses pernicieuses, c'est qu'ils font exprès, volontairement, d'enseigner des mensonges, enseigner des demi-vérités où tu as carrément le sens, puis d'expliquer un autre plan du salut. Connaissez-vous d'autres églises qui se disent chrétiennes, qui enseignent un autre plan du salut, que le salut par grâce, par le moyen de la foi? Oui, il y en a. Il y en a à tonnes, quasiment dans toutes les villes. Puis là, ils se détournent du droit chemin, puis ils se pervertissent, puis ils se corrompent, puis ils entraînent les autres dans leur corruption. Puis, vous savez, quand on dit un chrétien, il ne faut pas que ça aille d'ennemis. Hein? Ça dit même de prier puis des aimer nos ennemis. Là. Priez pour vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Aimez vos ennemis. C'est ça que Jésus dit. Puis là, il y en a qui vont dire, « Ah, tu n'as pas le droit d'avoir des ennemis. » Non, c'est pas ça que la Bible a dit. Elle n'a pas dit que tu n'avais pas le droit d'en avoir. Elle a dit que tu n'as pas le droit de les haïr. Mais pour quelle raison qu'une personne sera mon ennemi? C'est là qu'est la question. C'est-tu parce qu'elle a dit une mauvaise parole? Non, c'est pas à cause de ça, parce que Jésus dit d'y pardonner. Pour quelle raison que je pourrais considérer que quelqu'un est mon ennemi? C'est... Oui?
En parlant de Dieu?
Non. Ah, s'il me repousse, mais ça ne veut pas dire qu'il est mon ennemi. Mais si la personne... Il détourne la volonté de Dieu, il explique des mensonges, puis tu réalises, c'est un vrai faux prophète, ce gars-là. Là, tu vas décider que c'est ton ennemi, pas parce qu'il t'a fait nécessairement du tort, mais c'est parce qu'il est rendu un ennemi de Dieu. Si Dieu déclare qu'une personne est son ennemi, c'est mon ennemi. Si Dieu dit, c'est mon ami, c'est mon ami. C'est le même, ça marche. J'ai pas le droit de me faire des ennemis à cause de moi-même. Si quelqu'un me fait du mal, faut que je pardonne, faut que je prie pour lui. Mais si Dieu dit que c'est un ennemi, est-ce que Dieu a déclaré que certaines personnes pourraient être son ennemi? Acte 13, 10. Paul est en train de parler à Elymas, le magicien. Ce gars-là, c'est un magicien. Il faisait des tours de magie. Puis il est à côté d'un homme, un personnage romain important. C'est un proconsul. Puis Paul essayait d'évangéliser le proconsul pour y parler du Seigneur. Puis Elymas, le magicien, s'en vient se mêler de la conversation. Puis il essayait de détourner de la foi le proconsul. Il essayait de dire des affaires, puis ce gars-là, il faisait des tours de magie, mais pas de la magie, juste des tours de passe-passe, là, les tours de comment ça s'appelle ça? Il y a un tour de... un illusionniste, là, mais en réalité, illusionniste, c'est pas des vrais magiciens, mais les vrais magiciens, c'est ceux qui utilisent les sciences occultes, qui utilisent les pouvoirs, puis là, ils peuvent lancer des sorts, puis ainsi de suite, c'est... Puis même s'il dit c'est de la magie blanche ou de la magie noire, c'est de la magie, puis c'est le monde occulte, puis c'est pas de Dieu. Ce personnage-là est un magicien qui marchait dans les pouvoirs occultes, puis il essayait de détourner le Elymas, puis il essayait de détourner le proconsulte de la foi. Puis là, Paul, rempli du Saint-Esprit, il a parlé de l'apport du Saint-Esprit. Il a parlé de l'apport de Dieu. Puis il a donné une parole à cet homme-là, qui était un méchant, en fin de compte. Puis il dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Puis le voici, la main du Seigneur sera sur toi, puis tu vas tomber aveugle pour un temps. » En disant ça, Claude, le gars est tombé aveugle, puis il s'en allait en tontonnant. C'est pas Paul qui a inventé cette phrase-là. C'est poussé par le Saint-Esprit que le Saint-Esprit a donné un jugement à cet homme-là qui est un magicien. Que le gars était un magicien avant dans sa vie, c'est une chose. Puis le gars, il peut écouter la parole, puis il se convertir. Mais là, il est en train de vouloir s'opposer à l'œuvre de Dieu, essayer de travailler contre Dieu, essayer d'empêcher l'autre d'avoir la foi. Fait que là, il est en train de travailler, puis il se déclarait lui-même, ce personnage-là, un ennemi de Dieu, un ennemi de toute justice. Puis c'est ça que Paul lui a dit par le Saint-Esprit, puis là, la puissance de Dieu l'a frappé, puis ce personnage-là est tombé aveugle. Donc, dans ce verset-là, moi, je peux considérer que des fois, le Saint-Esprit trouve qu'il y a des personnes qui marchent en ennemis de la croix. Il y en a d'autres passages qui parlent de ça, qu'il y a des gens qui marchent en ennemis de la croix, puis qui s'opposent à la vérité. Il y en a d'autres passages qui disent ça. Ils deviennent des faux prophètes, puis ils deviennent des ennemis de Dieu. Puis si c'est un ennemi de Dieu, Paul n'est pas devenu ami de cette personne-là. Il a peut-être prié pour lui, parce que la Bible dit « Priez pour vos ennemis ». Il a peut-être prié pour que cette personne-là se convertisse. Il l'a peut-être béni, mais ce n'était pas son ami. Parce que cette personne-là, en agissant contre la vérité, ne pouvait pas être son ami, parce qu'il a déclaré la guerre à Dieu, puis il s'oppose à l'œuvre de Dieu, puis il travaille contre le Saint-Esprit qui essaye de mener une âme au Seigneur. Puis lui, Paul, c'est pas de lui que ça a sorti, rempli du Saint-Esprit, puis il a déclaré un jugement à cette personne-là. Je vois là-dedans que Dieu, il veut qu'on aime ceux qui aiment, puis il veut qu'on considère ennemis ceux que lui considère ennemis. Ça dit pas qu'on va les haïr. Le chrétien n'a pas de place pour haïr quelqu'un. Le chrétien n'a pas le droit d'haïr quelqu'un. Tu dois aimer tes ennemis. Tu dois prier pour eux autres. Il n'y a que le péché qu'on doit haïr, puis le diable. Là, je vais commencer à vous parler de certains versets qui nous parlent, de différents passages qui nous parlent que des faux prophètes, des ennemis de Dieu, qu'il y en a partout. Je vais commencer avec Jean, chapitre 10, le verset 1. Jésus dit, « en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, mais c'est un voleur et un brigand. » Qui est la porte?
Jésus.
Qui est le chemin?
Jésus.
Il n'y a pas d'autre. La Bible dit, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a que le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ en français, Yeshua Yamashia, son nom original en araméen. Yeshua Yamashia, c'est le Messie. Fait que c'est Yeshua, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est une traduction française déformée. C'est pas le vrai sens du mot en français. Ça aurait dû être Josué, traduit en français. Mais ça, on en reviendra. Le point est que il n'y a pas d'autre chemin. La seule porte pour entrer dans la bergerie, c'est Jésus. Mais ça nous dit qu'il y en a qui rentrent par ailleurs. Ils cherchent d'autres portes pour entrer. Ils essayent de s'infiltrer, puis de dire, il y en a d'autres chemins pour être sauvés. Tu peux prier les morts, tu peux prier Marie, tu peux prier les saints, tu peux prier, là tu vois dans d'autres religions, ils ont inventé des plans du salut de toutes les formes. Tout le monde veut y aller au ciel. Les musulmans, ils croient d'aller au paradis. Le gars, il a une bombe sur lui, il veut se faire exploser. Puis là, il pense de rentrer au ciel en faisant ça. Il pense que c'est son chemin pour rentrer au ciel. Puis il veut faire exploser du monde. Il y a quelqu'un qui a mis de quoi dans la tête, là? Un mensonge incroyable, ce personnage-là, est prêt à mourir pour sa croyance, pour sa foi qui est un mensonge, parce qu'ils peuvent pas rentrer au ciel en se faisant exploser par en tuant du monde. Ce personnage-là, il est peut-être sincère, mais sincèrement dans l'erreur. Voyez-vous, il y en a plein de fausses religions. Il y a juste une seule Bible, il y a juste un seul évangile qui est le Nouveau Testament, mais il y en a des milliers de religions qui prêchent des manières d'être sauvées autres que la manière qui est écrite dans la parole par la porte, puis c'est Jésus. Mais toutes les autres doctrines, les autres religions, c'est des enseignements erronés. C'est des esprits séducteurs et des doctrines de démons qui entraînent le monde dans le mensonge, dans les ténèbres et dans la mort éternelle. C'est pas des farces. C'est pas moi qui ai inventé ça. Je fais juste vous retransmettre ce que la Bible dit. Les gens s'en vont dans l'étang ardent de feu et de soufre pour l'éternité. Ils vont mourir dans leur péché parce qu'ils n'ont pas connu que le Messie, c'était Jésus-Christ. Puis ils n'ont pas pu rentrer par la porte, la vraie porte. Puis ils essayent de rentrer par ailleurs. Ils sont dans les ténèbres. Puis c'est de valeur, puis c'est pas de votre faute, puis c'est pas de ma faute. C'est comme ça. Puis c'est un de nos ennemis qu'on a à combattre, c'est le mensonge des fausses doctrines. Puis c'est pour cela qu'on est la lumière du monde en tant que chrétien. Dieu nous a révélé le véritable chemin. Si vous savez que vous êtes sauvé, que vous êtes né de nouveau, vous avez le pardon de vos péchés, c'est parce que Dieu vous l'a montré, puis Dieu vous l'a montré, puis Dieu vous l'a donné, puis Dieu il a fait que vous compreniez la vérité. Puis vous êtes une lumière dans ce monde à cause de la vérité que vous avez compris. C'est quelque chose, ça. C'est extraordinaire. On n'a pas à se vanter. Il nous l'a montré parce qu'il a frappé à la porte de notre cœur. On y a ouvert, puis on a dit, viens Seigneur, puis éclaire-moi, montre-moi ton chemin. Puis on a compris qu'il n'y a pas d'autre porte que Jésus. Puis c'est à cause de ça qu'on est sauvés. Puis ces gens-là ne connaissent pas la vraie porte. Jésus nous a parlé aussi des voleurs et des brigands. Ben non, excusez, il nous a parlé du mercenaire. Dans Jean 10, dans le même chapitre, mais le verset 12. Savez-vous c'est quoi un mercenaire? C'est quelqu'un qui travaille, puis il est payé pour faire la job. T'engages un mercenaire, tu payes, mettons, moi je serais un roi, puis là j'aurai à me défendre, puis là j'étais dans mon pays, est en guerre. J'ai besoin d'autres soldats pour combattre avec moi, mais j'engage des mercenaires. Je vais payer du monde pour pouvoir venir combattre pour moi. Bon, ça c'est ce que ça. Je dis pas qu'il faut faire ça, là. Je dis juste que ça existe. Ben, on va voir que dans ce verset-là, que Jésus attribue que les gens sont des mercenaires dans l'œuvre de Dieu. Dans Jean 10, 12, ça nous dit, mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, il voit venir le loup, il abandonne les brebis, il prend la fuite, puis là, le loup les ravit et les disperse. Il y a des faux prédicateurs, des faux docteurs, des faux prophètes, qui peuvent s'infiltrer dans des églises évangéliques, chrétiennes. Ils connaissent la vérité, mais ils sont pas là pour répandre la parole. Eux autres, tout ce qu'ils pensent, c'est leur poche. Ils veulent être payés. Un mercenaire, ça travaille pour de l'argent. Là, ils ont exploité des filons, puis ils en font de l'argent. Il y a des églises américaines, là, c'est par millions qui font de l'argent, mais qui vivent dans un luxe incroyable. T'écoutes le plan de doctrine, là, puis le plan du salut, puis ils prêchent pas la vérité, mais ils s'en foutent. Ils sont là pour faire de l'argent. Ils se mettent pas en peine des brebis. C'est pas grave s'ils prêchent pas la vérité. Puis là, les gens, ils vont là, puis ils pensent tout que c'est vrai, ils lisent pas le Bible, puis ils écoutent ce personnage-là, puis des fois, même, ils vont considérer que ce que le gars dit est plus important que la Bible, puis ils n'ouvrent jamais le Bible, puis là, ils croient à ce personnage-là, puis ils se font entraîner dans un aveuglement spirituel, puis ils sont mélangés dans la parole de Dieu, puis ils comprennent pas les vraies affaires, mais ils sont là parce que, vous allez voir un petit peu plus loin, ils font des miracles, ces gars-là. Vous allez voir, c'est fort là, qu'on s'en va. Les deux premiers, là, c'est une question de doctrine. Là. C'est quoi la porte? C'est quoi le chemin? C'est ça qu'il faut suivre. On ne suit pas le pasteur qui est en avant. Vous ne suivez pas le pasteur. Vous n'avez pas accepté votre pasteur comme sauveur personnel, ni comme votre Seigneur. Vous avez accepté Jésus comme votre sauveur et votre Seigneur. C'est lui que vous suivez. Le pasteur, il est juste là pour vous donner des explications, pour vous aider à aiguiser votre discernement, pour que vous puissiez encore plus suivre Jésus conforme à sa parole. Mais les faux, eux autres, sont là pour faire de la pièce, puis ils sont pas là pour que vous connaissiez les vraies choses. Faut pas se fier à tout ce qu'on voit. Oui, maudit celui qui met sa confiance en l'homme. C'est ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. On doit pas mettre notre confiance dans des humains, dans l'homme. Parce que même, je dis pas que c'est des faux prophètes, mais même un prédicateur sincère puis vrai, puis qui prêche généralement la sainte doctrine, peut y arriver d'avoir un point de doctrine qui est pas à 100%, mais c'est pas des sur les doctrines de base pour le salut, mais ça peut arriver qu'on a une conviction sur une idée qui est pas 100% l'idée du Seigneur. Faut pas encore prendre 100% comme du cash tout ce que les prédicateurs prêchent. Faut examiner la Bible, étudier la Bible. Ça peut même arriver que vous connaissiez des sujets plus que votre pasteur sur certains sujets. C'est correct. C'est pas pour vous que vous en fiez d'orgueil que Dieu vous révélera des choses. C'est pour que vous partagiez ce que vous avez appris par révélation pour édifier les autres. Le pasteur avec a besoin d'apprendre. Puis moi tout, j'en ai plein d'affaires à apprendre. J'en apprends encore plein à chaque jour. De la parole, puis de ce que je vois dans la vie des frères et sœurs, j'apprends. Puis j'apprends encore aussi quand le Seigneur me parle sur des affaires qu'il faut que je change. Jésus nous a parlé concernant les faux prophètes, là, hein, mais qu'ils peuvent séduire. La séduction, c'est comme de la tromperie, mais mélangé avec c'est bien beau, puis ça a de l'air vrai. Ça a de l'air attirant même. Quand Adam et Ève ont été séduits par le diable à propos du fruit défendu, il dit qu'il est agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. Ça va de l'air du plus si j'en mange, parce que il écoutait ce que le diable y avait dit. S'il aurait écouté ce que Dieu le Père y avait dit, il aurait dit, ben, je touche pas à ça, moi, le jour, je vais en manger, je vais mourir. S'il aurait écouté Dieu, il aurait pensé de même. Mais s'il écoutait le diable, c'est plus si je prends ça. Quelqu'un aurait dû écouter. Il aurait dû écouter Dieu. Puis là, quand il a écouté le diable, puis il a parlé, « Oh, ça va de l'air plus, Seigneur! » Ben oui, c'est ça. Puis là, il cherchait les excuses, après. Il dit, « C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait manger. » Mais on n'a pas d'excuses devant Dieu. C'est toi qui me l'as donnée, cette femme-là. Non, ça marche pas. On est responsable, puis il faut assumer. Si on prend des mauvaises décisions, on est responsable, puis on doit assumer. On doit la connaître, la parole, puis on doit écouter l'Esprit de Dieu. Mais dans Matthieu 24:11, ça nous dit, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Il va y en avoir beaucoup de faux prophètes qui vont s'élever, puis ils vont séduire. Ils vont enseigner des mensonges, puis ça a l'air plus quand tu crois à leurs idées. L'évangile de prospérité, c'est du plus, c'est une menterie, ça n'existe pas ça. Dieu veut qu'on prospère individuellement dans ce qu'il nous a appelé. Il nous a pas appelé à être tous des millionnaires, c'est pas vrai, c'est une menterie. Puis il y a des millions de chrétiens qui ont de la misère à avoir leur repas de la journée. Puis nous autres, à cause qu'on vit au Canada, puis qu'on se fait dire, t'es supposé d'être riche parce que c'est l'évangile de la prospérité, c'est un mensonge et une séduction. Ça trompe les chrétiens, puis les chrétiens qui arrivent pas, ils vont dire, Dieu m'aime plus, Dieu m'aime pas, je suis abandonné de Dieu parce que je suis encore pauvre. Sinon, il y aurait pourvu que je serais déjà millionnaire. Il y a des mensonges comme ça, là. Ça, j'appelle ça des légendes urbaines chrétiennes. Puis il y a plein de menteries de même qui se véhiculent, puis c'est tous des faux témoignages, puis des fausses prêches, des faux enseignements. Mais ce qu'il y a de pire, c'est que ces gens-là qui prêchent des faussetés, ils ont des moyens extraordinaires pour séduire, pour tromper, pour attirer. Savez-vous c'est quoi? Il y a des faux docteurs parce que la fausse doctrine a de l'air attrayante. Il y aura des plus en croyant ces menteries-là. Mais ce qui est le pire et que le monde court le plus aujourd'hui, c'est les miracles. Matthieu 24, le même verset, là je suis dans le 11, là je m'en vais au verset 24 de Matthieu 24. « Car il s'élèvera des faux Christ, des faux prophètes, puis feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Qu'est-ce qui va retenir un élu de ne pas y aller? De connaître la parole de Dieu. Il va écouter l'enseignement, il va regarder les fruits. Là, ce que je vous apporte, là, c'est juste la... Ce que je voulais vous dire, c'est que là, mon message que je vous apporte aujourd'hui, c'est juste la première partie. Il va en avoir partie 2, la prochaine prêche que je vais emmener, ça va être partie 2. Puis dans la partie 2, je vais vous expliquer comment discerner les faux prophètes. Mais là, aujourd'hui, on voit qu'il y en a des faux. Puis font des grands prodiges. Pourtant, on en veut des miracles. Puis à chaque fois qu'on voit un miracle, on se dit, c'est Dieu. Non. C'est pas à cause qu'on voit un miracle que c'est Dieu qui a fait ce miracle-là. Le diable aussi en fait des miracles. Tant que Moïse est allé libérer le peuple, puis est allé en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a dit, mets ta main ici. Par sort-là, est en lèpre. Par fallait tout est revenu sain. Il dit, prends ton bâton, jette-le à terre. C'est tout qui s'est changé en serpent. Puis après ça, il dit, ressaisis-le, il reprend le bâton, tout qui se retransforme en bâton. Ça, c'était la puissance de Dieu. Moïse, tout confiant, il s'en va en Égypte. Dieu est avec moi. Là, Pharaon, tu vas laisser sortir le peuple. Regarde bien ça. Là, c'est sûr que c'est extraordinaire, il y a un miracle. Puis après ça, il jette sa canne à terre, puis elle change en serpent. Mais lui, il est allé chercher ses magiciens, puis ils ont fait la même affaire. Voyez-vous? Puis après ça, l'eau change en sang. Les magiciens ont fait la même affaire. Il y a une couple de miracles que les magiciens ont réussi à faire. Toutes? Non, pas toutes. À un moment donné, là, quand il est arrivé que ça s'est changé en poux, là, ils ont dit, c'est la main de Dieu. Ils ont reconnu que là, ils n'étaient plus capables, c'est au-delà de leur pouvoir. Ils sont pas capables de créer la vie. Puis là, ça s'est pas accompli, les choses, ils ont pas été capables de les reproduire. Là, ils ont reconnu que c'était la main de Dieu. Mais combien de miracles qui ont été faits que ça aurait pu être le magicien qui fait le miracle et que tout le monde croit au magicien pour être sauvé? Si tout le monde se fie au miracle, les magiciens n'ont fait 3-4 pareil, puis ils auraient pu faire ça tous les jours, ces tours de magie-là, de puissance démoniaque à l'œuvre, pas des tours de cartes, là. Mais... l'eau qui change en sang, là, c'est assez quelque chose. Hein? Il y a des miracles, c'est même un bâton qui change en serpent, ou c'est des miracles assez extraordinaires. Ça veut dire qu'ils peuvent changer la matière, te faire voir autre chose que ce que tu vois, ou te faire ressentir quelque chose. Tu vas voir un guérisseur qui dit, c'est un don que j'ai reçu, puis le gars, il est même pas chrétien, là. C'est un don qu'il a reçu dans sa famille. C'est un don qu'ils ont reçu dans leur famille par quelqu'un qui leur a imposé les mains via X génération, puis le don reste dans la famille. Puis là, il impose les mains, puis supposément que le gars, il arrête le sang, Puis là, il récite sa petite affaire. C'est une petite affaire, une petite phrase comme magique, là, qui est pas « Seigneur, guéris-les dans le nom de Jésus ». C'est pas ça, la phrase. C'est une autre incantation qui fait arrêter le sang. Des miracles, il y a pas juste Dieu qui en fait le diable avec. Puis il y a plein de monde qui ont écouté le diable. Seigneur, en parlant au diable, « Diable, donne-moi un autre pouvoir. J'ai besoin, là, que même quand j'alloie le monde, que le monde croit encore plus en moi. Puis là, donne-moi une autre puissance que je puisse les attaquer, puis leur faire du mal dans leur sommeil ou dans leur nuit. Puis là, ils servent de leur sort, puis envoient des sorts, puis il y en a qui vont dire, oh, ben moi, je reste dans le bon côté. Donne-moi des pouvoirs, force. Et là, il parle à la force éternelle ou à la force, à l'esprit de la nature, peu importe. Il parle à quelqu'un, c'est pas tout le monde qui s'adresse au diable, mais si tu t'adresses pas à Dieu le Père, tu t'adresses au diable. Il n'a pas deux dieux, n'est qu'un vrai Dieu, créateur de toutes choses et sauveur du monde. Mais eux autres, ils se mettent à croire en un Dieu qui est peut-être un humain, un animal ou un esprit, un grand Manitou, puis là, il invoque pour avoir des pouvoirs, pour pouvoir guérir, pour pouvoir délivrer. La même chose que les chrétiens prient pour avoir le don de guérir les autres. Puis là, ils font des danses pour arriver la pluie. Mais ils font des danses de la pluie, ils l'ont fait pendant longtemps, puis autour de leur totem qui est leur dieu. Puis là, dans le totem, c'est une sculpture d'un animal ou quoi que ce soit. Puis ils invoquent ça. Puis là, ils reçoivent des pouvoirs, puis là, ils ont trouvé des herbes, puis là, ils vont fumer des affaires, puis ou bien, c'est vrai, puis ils font boire des potions, puis ça drogue le monde, puis là, ils ont des hallucinations, ils rentrent en transe, ils parlent à un démon. Ça existe, tout ce que je vous dis là. Puis le démon leur dit, fais telle et telle recette, va chercher telle affaire, tel objet, fais ça, fais pas pas, donne ça, puis il va être guéri, puis ça marche. Ça marche. C'est la puissance des ténèbres. Puis là, après ça, ces personnes-là croient dans ce qu'ils ont fait. Ils le font. Les gens sont guéris. Puis après ça, ils pensent tous que c'est le gars qui a la vérité, là. Parce qu'ils vont tous croire ce que le gars dit.
Comme plus d'un jour. C'est fort
aussi. Oui.
C'est quelque chose qui fait.
Mais on peut pas l'expliquer encore. Mais un jour, ça va être révélé. Le Seigneur va révéler ça. Puis, il y a plus fort que ça. Après ça, c'est les sciences modernes de la technologie d'aujourd'hui. L'hypnotisme. Mais il y a des gens là qui hypnotisent des foules. Les foules font ce que lui veut. Mais croyez-le ou non, c'est sûr que c'est dans les églises du Seigneur que des gens, pasteurs, puis ils le savent, puis ils se font hypnotiser. Puis où ils hypnotisent les autres, puis ils pensent avoir des pouvoirs. Puis je connais des gens qui vont voir des hypnotiseurs pour avoir la paix, puis ils sont chrétiens, puis ils sont pasteurs. C'est pas de Dieu. Puis c'est des pouvoirs qui travaillent dans le subconscient des humains. Puis après ça, si ils recherchent ces choses-là, lui non, celle que je connais, mais il y en a d'autres qui recherchent ces choses-là pour avoir plus de spectaculaire dans leur église. Puis là, on pense que le monde sont sous la puissance de l'esprit. Non, ils sont sous la puissance du subconscient qui manipule les subconscients de tous ceux qui sont ouverts à cela. Puis là, ils se font manipuler, puis il y a des effets de foule qui se produisent, tout le monde tombe à terre. Des soi-disant guérisons, tu n'as jamais vu une preuve qu'il y a eu une guérison, mais ça crie à tous les soirées, guérison, guérison. Puis tout le monde sont comme séduits par cet événement-là. T'écoutes la doctrine du gars, puis il marche avec les catholiques, puis il pense que les catholiques sont sauvés, la même chose que les chrétiens, puis il trompe le monde. Puis je les ai vus de mes propres yeux. Je vous dirai pas c'est qui. Mais c'est pour vous dire que ça existe. Faut pas croire automatiquement parce qu'on voit un miracle. Ça veut rien dire. Il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut analyser que la Bible nous donne. Pour analyser, pour vérifier s'ils sont vrais, si c'est des vrais. La Bible nous parle d'un faux prophète dans la bête de l'Apocalypse. Là, il y a deux bêtes dans l'Apocalypse au chapitre 13. Là. Puis il y en a une des bêtes, c'est une bête qui a une apparence de brebis, mais elle parle comme un dragon. Puis c'est elle, cette bête-là, à deux cornes, qui va donner l'autorité à la première bête, qui est la bête à sept têtes et 10 cornes, qui va être le gouvernement mondial. Mais cette bête-là, la seule qui est la deux cornes, qui a un vêtement de brebis, ça a de l'air chrétien, mais elle parle comme un dragon. Elle va faire des miracles. Elle va faire des miracles, ça nous dit au verset 13. Elle opérait de grands miracles, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Puis elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, parce que le diable est en arrière là, de cet antéchrist, de ce faux prophète-là, là, de la fin des temps. Puis ce faux prophète-là va élever le gouvernement mondial, puis il va faire une statue représentant le gouvernement mondial, puis il va faire que tout le monde reçoive la marque, puis celui qui s'agenouillera pas devant la statue animée, il va se faire tuer. Ça va arriver, ça, un jour. Ça s'en vient. C'est un faux prophète mondial qui va marcher dans la puissance de Satan, puis qu'il va séduire les nations. Tout le monde, pratiquement, sur la terre, vont croire à cette bête-là.
C'est ce qu'on appelle
les antichrist. Oui. La Bible avait dit qu'au retour du Seigneur, qu'il y aura des esprits démoniaques puissants qui opèrent des signes puis qui chercheront à tromper les gens. On voit ça aussi dans l'Apocalypse, chapitre 16, le verset 13. Un jour, il va y avoir un jugement sur cet antéchrist-là, puis c'est le Seigneur qui va la frapper. Puis les démons qu'il y a dedans, ils vont sortir. Puis c'est ce qu'on voit dans cette vision-là, dans ce verset-là. Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ces démons-là sont à l'intérieur du dragon, la bête, puis le faux prophète. C'est des esprits de démons impurs qui font des miracles. Dieu va permettre que le diable fasse des miracles à travers le gouvernement, parce que c'est le gouvernement mondial qui va s'installer, puis il va avoir un faux prophète, une fausse religion habillée en chrétien. Il va avoir une fausse religion habillée en chrétien, puis en parlant comme un dragon, puis il va manifester des miracles pour séduire tout le monde, pour rassembler tout le monde à aller faire la guerre aux Juifs, puis pour faire en même temps, c'est pour faire la guerre à Jésus-Christ qui revient. En Seigneur de gloire. Mais ils vont frapper un nœud parce qu'ils vont se faire détruire par l'éclat de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. On est sur le bord du vainqueur, mais en attendant, il faut faire attention. Quand je disais au début, il nous tient en éveil par des avertissements. On est averti que tout cela est là, puis on est dedans. Nous sommes à la fin des temps. C'est en train de tout s'installer, qu'est-ce qu'on voit dans la parole sur le contrôle mondial qui est en train de se faire, là, pour recevoir une marque, puis tu pourras pas acheter ni vendre sans avoir la marque. C'était pas possible avant, ça, là. On est rendu là, c'est possible aujourd'hui. Il manque pas grand-chose pour qu'on soit obligé de prendre le système. Pardon? Ben, il y en a qui disent que dans certains territoires, c'est déjà implanté. Je les ai pas vus, mais... C'est que ça se peut que le système est implanté, mais nous autres, ce qu'on doit savoir, c'est quand que ça va arriver à notre tour, il faut être capable de dire non. On n'a pas question de se faire recevoir quoi que ce soit, puis on élimine-nous tout de suite, il n'y en a pas question qu'on accepte cette marque de la bête-là, parce que vous relirez, si ça vous intéresse, Apocalypse 14, il parle du jugement de ceux qui vont recevoir la marque de la bête. Puis c'est terrible. Les ouvriers de Satan, ils s'infiltrent dans le christianisme pour introduire des faussetés dans l'enseignement et des divisions entre les frères. Dans Jude 1:4, ça nous dit, « Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution » puis qui renie notre seul maître et seigneur, Jésus-Christ. Ça, c'est dans Jude 1:4. Ça dit qu'il s'est glissé parmi vous. Ça veut dire qu'il s'est infiltré dans le christianisme. Des gens qui se disent, « Oh, on fait partie des chrétiens, nous autres. » Là, ça marche tout bras dessus avec tout le monde. Mais leur idée n'est pas de rechercher la sainte doctrine. Leur idée, c'est de démolir tout ce qui est de l'œuvre de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils trompent le monde. Ils changent la grâce de Dieu en dissolution. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Des fois, les mots sont écrits dans un langage compliqué. Changer la grâce de Dieu en dissolution. Dissolution, là, ça veut dire dérèglement. Dérèglement. Un synonyme, là, déréglé. Ça veut dire, il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de morale. Il change la grâce de Dieu en... Il n'y a plus de morale. Tu acceptes Jésus, tu peux faire ce que tu veux. Laisse-toi aller, tu as le droit de faire n'importe quoi. De toute façon, Dieu t'a tout pardonné tes péchés. Mais ça, c'est un mensonge du diable. Parce que la minute qu'une personne se livre à son péché, est rendue avec un accès au diable, elle est liée par le péché et par le diable qu'elle manipule, puis il la traîne vers la mort spirituelle. Mais les gens aujourd'hui, je l'ai entendu sur cette doctrine-là, que des chrétiens pensent que t'as accepté Jésus là une fois dans ta vie, il n'y a plus besoin de t'inquiéter, t'es toujours sauvé, tu peux vivre n'importe quand. De toute façon, c'est pour la liberté que le Christ nous a affranchi. Ouais, mais t'es pas affranchi pour être libre d'obéir à Dieu, là. T'es pas affranchi de Dieu, t'es affranchi du péché. Il t'a rendu libre pour obéir à Dieu. Il t'a obéi. T'es plus sous la loi de l'Ancien Testament, mais t'es sous la loi de Christ. Puis dans la loi de Christ, il y a des règlements. Il y a des choses à faire et à pas faire si on veut garder notre communion avec le Seigneur. Notre marche dépend de nos décisions. Notre communion avec Dieu dépend de nos décisions. Puis si on marche dans le péché, puis on confesse pas, puis on pense qu'on n'a pas besoin de confesser, puis on pense qu'on peut faire tout le péché qu'on veut, on est rendu aveuglé quand on pense comme ça. On est déjà lié par le péché qui nous entraîne. La grâce de Dieu, oui, on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Puis maintenant, je suis un libre du péché, mais un esclave de Christ. Je suis un affranchi du péché, mais je suis là pour obéir au Seigneur, puis à marcher selon sa parole, puis à rester, à persévérer dans sa parole jusqu'à la fin. Mais ces gens-là, ils la changent en dissolution, en dérèglement, puis ils renient même le maître. Il y en a des religions qui renient Jésus, puis qui ne l'appellent plus, qui est Dieu. Il y en a des religions qui se disent évangélistes. Les témoins de Jéhovah ne croient pas que Jésus est Dieu. Puis ça fait partie du christianisme, parce qu'ils parlent du Christ. Les mormons. Il y a plein de religions qui ne croient pas que Jésus est Dieu, puis ils renient notre maître. Il y en a, même dans les religions plus proches que ça, là, il y a des évangélistes, des religions évangéliques, dans l'Église évangélique, dans l'Église chrétienne, qui ne croient pas non plus que Jésus est Dieu. J'ai déjà eu des arguments du monde chrétien sur Internet, dans des sites d'échange. Puis les gens ne croient pas ça, ils vont se battre. C'est le Fils de Dieu, mais ils veulent pas admettre qu'il est Dieu. Mais nous autres, on le sait parce qu'il y a plein de versets qu'on a déjà parlé, puis si Dieu le veut, on en reparlera, parce qu'il faut se maintenir dans tout ce qui est la sainte doctrine. Dans 2 Corinthiens 11, 13, pour continuer dans la même idée que les ouvriers de Satan s'infiltrent dans le christianisme, là, pour introduire des faussetés, là. Puis ça paraît bizarre, parce que tu regardes tout le monde, ils ont de l'air bien habillés avec leurs habits, ça a de l'air du bon monde. Ben, dans 2 Corinthiens 11, 13. Mais c'est pas l'habit qui fait le moine. Et de ces hommes-là, Paul est en train de parler de ces hommes-là, là, qui vous, en parlant de ceux qui étaient en train de troubler les Corinthiens. Il y avait des gens dans l'église de Corinthe, en train de tromper les Corinthiens. Et de ces hommes-là, là, Paul, il mâchait pas ses mots, là. Ils se sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Ils sont déguisés en apôtres de Christ. Il y a que du monde qui se disait qu'ils étaient des apôtres, puis ils étaient dans l'église de Corinthe, puis ils enseignaient des faussetés. Puis il lui dit, c'est des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Hey, dans ce temps-là, dans le temps de Paul, là, c'était frafette, là. Jésus, ça faisait pas longtemps qu'il était mort sur la croix, ressuscité, puis l'Église du Seigneur commençait à se répandre, puis la bonne nouvelle était connue. Tout le monde le savait que Jésus était venu, puis les miracles qu'il avait fait. Puis déjà, dans l'Église de Corinthe, on parle d'une couple d'années plus tard, il y a déjà des gens qui rentraient dans les églises, puis essayaient de tromper les chrétiens dans les églises, en se faisant passer pour des apôtres. Je suis un apôtre. Puis là, le gars, il commence à dire des affaires qui n'est pas de Dieu. Il commence à prêcher des enseignements qui n'est pas de la parole de Dieu. Paul ne s'est pas gêné, il lui a écrit, puis il lui a dit, là, ces gens-là, là, qui vous troublent, là, c'est des faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Puis ça dit, ils se déguisent en apôtre de Christ. Puis pensez-vous qu'il n'y en a pas aujourd'hui, 2000 ans plus tard, si frac comme que ça venait d'arriver, il y en a eu. Aujourd'hui, l'Internet, les églises, la terre entière est infestée de fausses doctrines données par de faux ouvriers trompeurs, déguisés en ministres de justice. C'est ce que ça dit. Ces ministres à Satan aussi se déguise en ministre de justice. Ils se déguisent, ils font semblant. Ils sont pas là pour prêcher la vérité, ils sont là pour leur poche, pour faire de l'argent. Ils utilisent la naïveté des gens, le font accroître toutes sortes de fausses doctrines. Les gens en bas, oui, on en veut de la prospérité. Puis là, vous allez être bénis, faites-en des gros chèques. Vous n'avez pas d'argent, faites-les par la foi, mettez-les sur votre carte de crédit, puis le Seigneur me met à cœur aujourd'hui, vous allez toutes me donner 150 piastres chaque. Le monde n'a pas l'argent, mais par la foi, ils écoutent ces faux prophètes-là, ils font des chèques, ils donnent par la foi, puis ils pensent tous sont en train de nourrir ou répondre à l'œuvre que Dieu leur aura demandé. Dieu leur a jamais demandé ça. C'est ce faux-là qui est en train de les amener à les siphonner. Il mange la graisse des brebis. Ça, on le voit dans l'Ancien Testament, dans un verset, que Dieu condamne des pasteurs de néant, des gens qui sont là pour dévorer le peuple de Dieu. Dieu va s'arranger avec eux autres. Ça dit, leur fin sera selon leurs œuvres. Il n'y a pas d'injustice qui va passer devant Dieu. Les faux prophètes, ils peuvent prêcher Jésus et avoir un autre esprit. Regardez, là, je ne le demande pas de le lire, alors je peux vous le lire bien vite. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », ils parlent à Jésus, là. « Seigneur, Seigneur », ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Plusieurs me diront ces jours-là, « Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? » Jésus va leur dire, « Retirez-vous de moi, je vous connais pas, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. » Hey, c'est des gens religieux, ils faisaient des miracles, ils faisaient des prodiges, ils chassaient des démons, puis Jésus les connaissait même pas. Ces gens-là étaient pas nés de nouveau. Pourquoi qu'ils sont pas nés de nouveau? C'est parce qu'ils n'ont pas reçu l'Esprit Saint. Ils se sont pas convertis comme la Bible le demande en confessant que Jésus est le Sauveur. Fait qu'ils ont leur propre doctrine. Ils croient qu'un Jésus, mais ils ont peut-être mis Marie à travers, puis ils ont peut-être mis des saints à travers, puis ils ont enlevé que Jésus est pas Dieu, puis c'est rien qu'un archange Michael, puis tous les mélangeages de doctrines, puis il peut se passer des miracles. Ça veut pas dire parce qu'on voit un miracle que c'est nécessairement l'Esprit de Dieu, puis que c'est Dieu qui est là. Faut faire attention, la séduction est puissante, puis c'est pas des farces. Il y a plus de monde sur la terre, du monde croyant, qui croit en des mensonges, que du monde qui croit en la vérité. C'est fort. Si tu fais le total de toutes les religions qu'il y a sur la terre, là, ils sont pas toutes vraies. Il n'y a qu'un seul chemin, puis c'est Jésus. Tu calcules le nombre de ceux qui suivent le vrai chemin, puis le nombre de ceux qui suivent les religions sur la terre. Il y a plus de monde qui croit en des mensonges que de monde qui croit en la vérité. C'est grave. Ils sont tous perdus. Paul y a averti les Corinthiens, comme je disais tantôt, c'est aux Corinthiens qu'il y avait des faux prophètes, des faux apôtres déguisés dans l'église de Corinthe. Paul y a averti les Corinthiens du point de doctrine qu'il n'allait pas, là. Puis il leur a dit quelque chose qui est dans 2 Corinthiens 11, 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, et si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Les Corinthiens, là, ils étaient en train de croire à un autre Jésus, un autre évangile, puis il était ouvert à avoir reçu un autre esprit. Et pourtant, ils sont chrétiens, comment ça peut arriver? Ils ont commencé par l'esprit, puis ils ont fini par la chair. Ils ont commencé par être sauvés par la prédication que Paul a prêchée. Ils ont été sauvés. Puis après ça, ces faux apôtres-là sont arrivés, des ouvriers trompeurs déguisant apôtres de Christ, enseignés des fausses doctrines. Ils ont enseigné une autre manière d'être sauvés, un autre évangile. Ils ont enseigné un autre Jésus qui n'est pas le Jésus de la Bible. Puis ils ont enseigné... Ils ont reçu un autre esprit que l'Esprit de Dieu. Puis que là, ils supportaient tout ça comme si c'était beau. Je l'ai entendu moi-même dans des églises évangéliques, pentecôtistes. J'ai rien contre les pentecôtistes, j'ai été des pentecôtistes longtemps. Mais dans une église particulièrement, une doctrine qui disait que dans la fin des temps, qu'on recevrait un esprit nouveau. Là, il se basait sur le passage dans les Actes qui dit, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dans mon livre à moi, ça s'est accompli il y a 2000 ans. Que cet esprit-là, dans les derniers temps, qui était répandu sur toute chair, ça a commencé il y a 2000 ans. Ça parle pas dans ce verset-là qu'il va y avoir un autre esprit à la fin. Il est déjà accompli, ce passage-là, puis les apôtres l'ont pris, ce verset-là, puis il dit, c'est ça qu'on vient de recevoir. On a tous été baptisés du Saint-Esprit. On vient de recevoir la promesse de Joël, puis on est dans les derniers temps, puis l'Esprit vient d'être répandu. Mais eux autres, dans cette église-là, ils cherchaient à reprendre ce texte-là, puis dire, ben là, des derniers temps, puis là, ils disent, il y a un autre esprit qui va arriver, puis là, il est ouvert à l'Esprit du Vineyard. Puis là, ils voulaient recevoir le renouveau. Là, il voulait faire des jerks, puis il voulait tout faire des manifestations, que j'ai chassé des esprits qui étaient dans les gens qui manifestaient de ces choses-là. Mais c'était, pendant un moment, bien populaire dans des églises, puis que là, ils cherchaient cette puissance-là. Mais c'était pas le Saint-Esprit, appuyé avec des versets erronés, puis c'est un autre esprit qui est en train de se donner par imposition des mains dans les églises. Puis les gens ils vivaient des expériences qui sont pas écrites dans la Bible. Ils étaient à quatre pattes, puis ils faisaient le chien, ou ils étaient couchés à terre, puis ils faisaient le serpent. Il n'y a pas une place dans la Bible qui me dit ça. Puis moi, ce qui n'est pas écrit là, j'en veux pas. Puis je me suis opposé à cela tout de suite. Puis quand j'ai vu que de certaines personnes de mes proches ont été contaminées par ça, j'ai chassé ça dans le nom de Jésus, puis ça a sorti. Fait qu'il y a des injections de d'autres esprits qui peuvent se recevoir quand tu es ouvert à vouloir les avoir. Puis il faut faire attention. C'est pas parce que tu vois monsieur un tel qu'il a une belle habit puis que là, il a de l'air un vrai prédicateur, puis il impose les mains, puis il y a des miracles, mais tout ce qu'il dit, j'ai de la misère à... ça marche plus qu'est-ce que j'ai lu dans la Bible, puis que là, les manifestations même n'ont plus rapport, puis c'est un désordre complet, puis c'est une honte pour le christianisme. T'emmènes du monde là-dedans, là, le monde ne veut même plus y retourner à l'église, là, c'est quoi ça? C'est pas la puissance parlant en langue, là, c'est rendu, le monde faisait le chien ou il faisait la vache à terre. C'était pas de Dieu pantoute, mais ça allait amener un discrédit sur les églises évangéliques qui vivaient cela. Il y a les gens, ça a fait des divisions, puis les églises le monde ont quitté ces églises-là, puis ça diminuait d'à moitié. Puis même plus fort que ça, il y a des églises qui ont mis dehors ceux qui voulaient pas l'avoir, cette chose-là. Fait que ça a créé du trouble. C'est pas l'Esprit de Dieu qui a fait ça. C'est un autre esprit. Puis pour vous dire, c'est là, aujourd'hui, on est dans l'accomplissement de ces prophéties-là que je vous parle aujourd'hui. Les manifestations de d'autres esprits dans l'Église, avec des fausses doctrines, puis ça trompe le monde, puis ça l'amène un discrédit pour la foi chrétienne. J'achève. Frères et sœurs, le discernement là, des choses, là, comme j'ai dit au début, là, la parole de Dieu, ces versets-là nous ont été donnés pour aiguiser notre discernement, pour qu'on sache ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qu'on doit faire attention, puis pas suivre d'autres choses, puis tu sais, pour s'enligner. On ne doit pas juger les gens par leur apparence extérieure, ni parce qu'ils sont plus nombreux dans cette Église-là, ni nous laisser influencer parce qu'ils sont riches ou qu'ils sont beaux, parce qu'ils font partie de notre famille, ou parce qu'ils ont de l'air honnête, ou ils nous font pitié. On juge pas les situations et les gens par l'extérieur. C'est pas par l'apparence, c'est par la parole de Dieu qu'on juge les choses. Est-ce que c'est écrit dans ma Bible? Puis Paul il dit de pas aller plus loin de ce qui est écrit. Si tu vas pas plus loin, tu te trompes pas. Il est clair qu'avec les enseignements de la Bible, Dieu veut mettre en garde ses enfants puis leur dit de s'accrocher à la vérité. Dans 1 Jean 2,14, ça nous dit « Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Vous voulez vaincre le malin? Vous voulez rejeter les œuvres des ténèbres? Il y a une seule manière. C'est, vous avez connu celui qui est dès le commencement? C'est Jésus qui est là de toute éternité. Vous l'avez connu? Mais là, il dit, vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Puis c'est à cause de cela qu'on va vaincre le malin. Faut rester ancré en la parole de Dieu. Faut la lire, l'étudier, la méditer. Tous les jours, puis plus qu'on va en apprendre, plus qu'on aiguise notre discernement, puis plus qu'on va être capable de dire non à ce qui n'est pas de Dieu. Dernier verset, Apocalypse 3:10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il y a une heure qui est annoncée dans la parole de Dieu où ce que les habitants de la terre, ils vont avoir une séduction mondiale qui vont croire en toutes les puissances que je vous ai mentionnées tantôt. Puis ils vont tous être séduits, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie. Ils vont tous être ils vont tous voir ça, ces miracles-là, puis ils vont tous adhérer à ce faux prophète mondial-là. Puis Jésus dit, parce que tu vas garder la parole de la persévérance en moi. Est-ce quelqu'un qui sait c'est quoi ça? Dieu veut qu'on persévère en lui. C'est tout simple que ça. Il n'y a pas de... Restons ancrés, forgés, enracinés, bâtis sur le roc. C'est lui, Jésus, et sa parole. Puis parce que vous allez vouloir rester dans cette position-là, Jésus va vous garder lors de l'épreuve, lors de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Les seuls qui ne seront pas gardés, c'est ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils vont tomber sous la puissance de l'égarement, puis ils vont adhérer à tout ce système-là, puis ils vont être séduits. Frères et sœurs, demeurons ancrés dans la parole de Dieu. Croyons ce qui est écrit là, rejetons le reste, restons fermes jusqu'à la fin.